Une vue d'ensemble de l'actualité.
I heard the big sound, the gun.
I was hearing that shooting after shooting after shooting, about 6 minutes or more, I could hear screaming and crying. And
this can now only be described as a terrorist attack.
Réville PM.
Celle que vous venez d'entendre qui dit que ça ne peut être que qualifié d'un attentat terroriste, ben c'est la première ministre de Nouvelle-Zélande, Madame Ardern. Et juste avant, vous entendiez des témoins de cette tuerie, des gens qui ont échappé de près à la mort, qui ont vu des gens près d'eux mourir. Un qui disait « Oh mon Dieu, j'espère que ce gars-là va manquer de balles avant de me tirer moi-même ». Alors, c'est épouvantable, puis évidemment, quand on apprend que sur l'un de ses chargeurs, il avait écrit le nom d'Alexandre Bissonnette, ça nous touche encore davantage. Alors, nos pensées, et pour ceux qui sont croyants, nos prières vont bien entendu à toutes ces victimes, à leurs familles, et on a une pensée, bien entendu, pour notre communauté musulmane ici au Québec. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on commence à avoir un petit peu de recul. Mais juste avant, on va entendre Boufelja Benaldallah, qui est vice-président fondateur de la mosquée de Québec, où a lieu ce terrible drame, dis-je bien, il y a 2 ans de ça. Et vous allez entendre aussi Brigitte Massé. Elle vit en Nouvelle-Zélande depuis 20 ans, dont 2 ans à Christchurch, donc dans cette ville où a lieu l'attentat d'aujourd'hui. On les écoute.
Je me suis toujours sentie très en sécurité ici, puis très loin aussi de tous les événements triste qui touche d'autres parties du monde, les attentats terroristes et tout. C'est complètement bouleversant que ça se passe si près de chez nous. Et puis, dans un pays qui est si paisible et si accueillant comme la Nouvelle-Zélande.
Imaginez les enfants de ces familles ici à Québec qui entendent parler la radio probablement, puis qui vont voir peut-être leur maman pleurer, puis ils vont se demander « Mais pourquoi tu pleures, maman ?» Parce que... La maman va se rappeler cette journée du 29 où elle courait pour chercher leur mari qui était tué par Alexandre Bissonnette.
Alors, on va aller rejoindre maintenant un expert en terrorisme. Il a travaillé comme agent des services de renseignement français, là, ce qu'on appelle la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Claude Moniquet, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Moniquet, d'abord, décrivez-nous les motivations de cet homme, de ce terroriste-là, Brenton Tarrant, qui s'est filmé en train de tuer tous ces gens. Si vous vouliez nous résumer d'abord les motivations qu'il a exprimées.
Alors, c'est compliqué. Enfin, c'est à la fois simple et compliqué. Cet individu a posté sur Internet et puis montré à la police un texte, un manifeste de dizaines de pages qui ressemble beaucoup au manifeste qu'avait écrit Anders Breivik, le Norvégien qui avait commis les attentats d'Oslo il y a quelques années. Mm-hmm. C'est un mélange délirant de suprémacisme blanc, de haine du musulman, de haine de la différence, de haine de la démocratie, de volonté de créer le désordre, parce qu'il dit, il dit à plusieurs reprises, il le répète, il faut créer la guerre civile, il faut créer l'affrontement entre les communautés. Fondamentalement, si on devait résumer en quelques mots, on est en face de quelqu'un qui a certainement un profil psychologique très discutable, mais qui se définit lui-même comme un fasciste et un raciste. Et c'est fondamentalement ce qu'il est. La motivation de son acte, c'est du racisme et c'est du fascisme.
Vous dites il y a un profil psychologique dérangé, puis c'est vrai qu'il y a des incohérences, puis il y a des choses dans ce qu'il dit qui ne se tiennent pas, mais en même temps, son niveau de préparation, M. Moniquet, nous montre bien que ce gars-là n'est pas complètement cinglé, là. Je veux dire, il a réfléchi longuement, il s'est très, très bien préparé, donc c'est pas un fou.
Alors, c'est pas un fou, non. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une perception de la réalité qui manifestement est compliquée, voire tronquée ou déformée. C'est un homme intelligent. On voit bien dans son texte est malheureusement pas mal... Enfin, il est délirant, mais il est bien écrit. Oui. Il est relativement structuré. Il y a plein de références historiques. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, mais ce qui a sans doute beaucoup mélangé ses lectures. Et surtout, c'est quelqu'un qui, il le dit lui-même, et l'enquête le montrera, qui a préparé son action pendant 2 ans. Donc quelqu'un qui, tout en étant pas très équilibré, manifestement, un homme équilibré va pas prendre ses armes pour aller tirer sur des gens à la sortie d'une mosquée, d'une synagogue ou d'une église. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a été assez structuré pour préparer, sans être repéré pendant 2 ans, un acte terroriste qui est un des pires actes, sinon le pire acte jamais commis dans la région.
Parlez-nous de son mode opératoire, justement, là. Vous qui avez été dans les services de renseignement, qu'est-ce qui vous frappe dans sa façon d'exécuter son attentat?
Ce qui me frappe, c'est ce qu'il dit lui-même. D'ailleurs, il a, comme il savait bien qu'il n'aurait jamais vraiment l'occasion de donner une interview, il a réalisé sa propre interview dans son manifeste en plusieurs dizaines de questions. Et une des questions qu'il se pose à lui-même, c'est pourquoi avoir choisi d'utiliser des armes automatiques et pas des bombes. Et il répond, j'ai choisi les armes automatiques, j'ai choisi les munitions, j'ai choisi de tirer parce que ça impressionnera plus la population et la foule. Ça impressionnera beaucoup plus qu'une bombe. Et il explique que c'est un acte de guerrier. Il se voit lui-même, à certains moments, il dit « je suis un terroriste », à d'autres, il dit « je suis un partisan engagé dans la guerre contre les envahisseurs ». C'est comme ça qu'il appelle les étrangers, ceux qu'il appelle les non-blancs, ceux qu'il appelle donc les envahisseurs, les musulmans, tous ceux qui, dans son idée, veulent remplacer les blancs dans les pays européens ou les pays, les anciennes colonies européennes comme le Canada, les États-Unis ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
Ouais, c'est là que son attentat ressemble à celui de Breivik en Norvège qui avait fait plus de 70 morts, tous des jeunes ou presque tous des jeunes. Il y a cette théorie du remplacement de la population qui est très très chère à l'extrême droite là.
Oui, c'est une théorie qui a été d'ailleurs, je pense qu'elle est née en France, en tout cas, qui a été fortement popularisée par Monsieur Camus, qui est un intellectuel malheureusement français qui sort sur cette théorie du grand remplacement depuis des années. En gros, c'est quoi le grand remplacement? L'idée, c'est que un espèce de gouvernement mondial qui joint, dans lequel on retrouve l'ONU, on retrouve les grandes corporations, les grandes sociétés, on retrouve le capitalisme, on retrouve l'extrême gauche, on retrouve tout le monde en fait, a décidé de remplacer la population européenne par la population non européenne, parce que la population européenne n'est plus assez nombreuse pour travailler et occuper des postes mal payés. Grosso modo, je schématise, mais c'est ça l'idée. Et effectivement, cette idée, qui est une idée de nouveau quand même délirante, cette idée, malheureusement, est une idée sur laquelle, qui a été adoptée par l'extrême droite identitaire et qui est agitée dans tous les milieux identitaires depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années.
L'autre chose qui est très frappante, vous avez parlé de l'entrevue qu'il fait avec lui-même, là où il explique ses intentions. L'autre chose qui est très frappante, tu vois que ce bonhomme-là veut marquer l'histoire, veut faire l'histoire. Il se filme lui-même et il diffuse en direct son attentat. Moi, je me souviens pas qu'on ait vu quelque chose comme ça, là.
Effectivement, alors on a vu ça dans certains attentats islamistes, mais pas beaucoup. On l'a vu, je pense que Breivik avait filmé une partie de ses actions dans mon souvenir, j'en suis même à peu près sûr. Mais effectivement, on voit bien que qu'il y a quelque chose qui a été vraiment réfléchi, pensé. Il y a l'acte qui est fait dans un pays très calme. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est un pays de cocagne, qui est, on peut dire, un peu en dehors du monde, en dehors du tumulte du monde en tout cas. C'est un pays dans lequel, normalement, sur une année normale, vous avez 40 à 50 homicides. Là, en une seule journée, il a fait l'ensemble, le même nombre d'homicides qu'une année de crimes en Nouvelle-Zélande. Donc en choisissant ce pays très calme, il savait très bien qu'il allait encore plus marquer les populations et encore plus faire la une des journaux, des télévisions, des radios, qu'on allait parler de lui pendant des jours. Et là, après ça, il y a la diffusion de son texte, il y a le film qui a été diffusé sur les réseaux et qui malheureusement est repris par beaucoup. Et là, j'insiste auprès de tout le monde, il ne faut pas diffuser ces images, bien entendu. Malheureusement, certains le font. Diffuser ces images, c'est aller dans le sens voulu par ce tueur. Mais on voit bien que ça a été pensé, ça a été réfléchi. C'est horrible à dire, mais autour de ces assassinats, il y a du marketing.
Mais c'était incroyable. Vous avez absolument raison.
C'est incroyable.
Et Claude Moniquet, donc je rappelle, vous êtes un expert en matière de terrorisme. Vous avez travaillé pour les services de renseignement français. Moi, je vais vous dire, mon inquiétude, c'est qu'il en inspire d'autres. Justement par le souci qu'il a eu de publiciser au maximum et d'avoir un impact médiatique percutant.
Bien sûr. Je me rappelle quand on a eu les attentats de Paris, hein, janvier 2015 et puis novembre 2015, et puis les attentats qui ont suivi en Europe, j'avais parlé à plusieurs reprises avec le patron du renseignement intérieur français à l'époque, Monsieur Patrick Calvert, que je connaissais bien, et qui disait, moi, ma peur, une de mes peurs, c'est que cela suscite une sorte de guerre civile en Europe, qu'il y ait des gens d'extrême droite qui réagissent et qui un jour aillent tirer sur une mosquée. Heureusement, on a eu un grave incident à Finsbury Park, à Londres, où un extrémiste de droite, avec sa voiture, a écrasé plusieurs musulmans et en a tué deux ou trois. Mais heureusement, à part cet incident gravissime, on n'a rien eu en Europe jusqu'à présent. Heureusement, qui soit de l'ampleur et de la nature de ce qui s'est passé à Christchurch ce matin. Mais effectivement, on sait bien, parce qu'on l'a vu dans l'islamisme, qu'il y a un effet copycat. Il y a un effet, quand quelque chose se passe, un acte grave terroriste se passe, vous avez toujours le risque que quelque part, quelqu'un qui a les mêmes idées ou quelqu'un qui est déséquilibré, ou les deux se disent, eh ben ça marche, ça fait l'une des journaux, je vais faire la même chose. Donc effectivement, dans les jours, les semaines et les mois à venir, il faudra très clairement renforcer la surveillance de ces milieux extrémistes de droite et essayer autant que faire se peut de déterminer, de repérer ceux qui seraient susceptibles de passer à l'acte.
Vous parlez de la France. Il dit, le terroriste, l'auteur de ce carnage, Tarrant, il dit que la France a été un élément déterminant dans sa décision de passer à l'acte.
Oui, tout à fait. Il explique dans son manifeste qu'il est un homme de classe moyenne, venu d'un milieu populaire, qui n'a pas beaucoup fait d'études, qui n'a pas beaucoup travaillé, qui a joué avec les bitcoins, qui a gagné de l'argent et qui, avec cet argent, a fait une espèce de tour du monde. Il explique qu'à un moment, il se trouve en Europe au moment des attentats, donc on imagine dans les années 2015, 2016, peut-être 2017, sans doute 2017, puisqu'il fait référence aux élections, à l'élection présidentielle en France. Et il dit la défaite d'une candidate quasi-nationaliste, c'est Marine Le Pen bien sûr, face à M. Macron, m'a convaincu qu'il n'y avait plus de solution politique à ce problème du grand remplacement et qu'il fallait entrer en guerre.
C'est incroyable. Alors là, évidemment, Claude Moniquet, on les regarde aller, cette frange extrémiste de droite. Il y a plusieurs groupes chez nous, ils existent, ils sont assez fragmentés, là. Ils sont éparpillés dans plusieurs groupuscules. Mais je les regarde aller, puis j'ai pas l'impression que je crains qu'ils prennent de la force. Je crains que des attentats comme celui d'aujourd'hui ne viennent de leur donner du carburant. Là, je crains que les prochaines années, malheureusement, nous réservent une expansion de ce courant de pensée qui pensent que tuer des musulmans, c'est tout à fait légitime et que ça s'inscrit dans un combat plus large.
Mais malheureusement, je partage votre crainte et je pense que tous les hommes raisonnables et les femmes raisonnables doivent la partager. On est dans un monde qui est en pleine mutation, un monde mondialisé, un monde dans lequel il y a des défis économiques et sociaux terribles. Et il y a toute une partie de la population qui se sent rejetée, qui se sent mise à l'écart, à tort ou à raison, et qui a perdu tous ses repères. Pour certains de ces gens, heureusement pas tous, on parle d'une minorité, hein, fort heureusement, pour une partie de ces gens, pour une minorité, effectivement, la seule réponse à toutes ces peurs qu'ils ont, c'est la violence. Et la violence, elle va se déchaîner contre qui ? Contre celui qui est différent. Et celui qui est différent, ça peut être le musulman aujourd'hui, ça peut être un étranger extra-européen.
Ça a déjà été le juif, Claude Moniquet. Hein? Et, il y a 60 ans, c'était les juifs. Aujourd'hui, c'est les musulmans.
Et ça peut, et d'ailleurs, on a eu aux États-Unis, on a eu il n'y a pas très longtemps, à Pittsburgh, une attaque antisémite. C'est celui qui est différent. Celui qui est différent, en période de crise, en période de crise sociale, attire la haine. Et là, il y a un rôle, je pense, énorme, bien sûr, des familles, mais aussi des écoles, de l'enseignement, de l'éducation, d'apprendre aux enfants, aux jeunes, le respect de l'autre. Apprendre qu'effectivement, même quand les situations sont compliquées, il n'y a pas de réponse simple à une réponse compliquée, et on ne peut certainement pas apporter à une situation compliquée une réponse criminelle comme un attentat.
Je rappelle que vous vous appelez Claude Moniquet. Vous avez été agent de renseignement donc avec les services secrets français. Vous avez cofondé et vous êtes directeur de la European Strategic Intelligence and Security Center. Claude Moniquet, merci.
Merci à vous.
On s'arrête. Au retour, les manifestations de nos jeunes, pas juste ici, là, partout dans le monde, pour le climat, dans un instant.